Bien, je crois qu'il est 9h30, bien que l'horloge du Collège de France ne semble pas marcher comme elle le devrait. Mais nous allons commencer ces deux journées d'un colloque dédié à la mémoire de Bernard Fanck, mais qui ne porte pas, comme vous l'avez compris, sur Bernard Fanck lui-même. Il est plutôt placé dans le sillage de son œuvre. Comme vous l'avez vu, c'est un colloque largement franco-japonais et avec la participation d'autres collègues, de quelques collègues européens. Et nous avons la question de la langue. C'est pour ça que nous allons alterner constamment entre le français et le japonais. Et si vous le permettez, je vais d'abord dire quelques mots en japonais pour après reprendre en français. Et à la fin, de donner quelques indications concrètes sur le déroulement des deux jours en français et reprendre en japonais. Voilà. Mazu nihongo de kantan na kotoba o mijikaku. C'était itadakimasu. Mazu harubaru to nihon kara oide kudasatta nihon no sensei gata ni fukai 感謝の意を表しながら深くお詫びも申したいと思います。皆さん には私を昔からのご存知の方に多いんですから驚きに至らないと思いますけど、私の組織力の足りないことでもう昔から有名だと、日本でもフランスでも有名だと思いますけど、ギリギリ今年は特別に難しかったです。それなのにもう忍耐力を鍛えて間違わずにここまで今日までちょうど時間にまで守りながらおいでくださって本当にありがとうございました。誠に申し訳ございませんでした。そういうことが実行できたのは私の力じゃなくて、私を助けてくださった周りの人々、師匠関係の方と研究所長助手の方などと、いろいろ同僚たちの協力を得てやっとできました。私は何もしておりませんでしたから、その不足のところは全部私のもので、もし万が一成功のあるところがあったら、その人に、その人のおかげだということを認めなければならないと思います。じゃあ今日はこの2日間の間にベルナー・フランク先生の、についての学会じゃなくて、ベルナー・フランク先生の影といいますか、の見影に、置かなければならないと思います。そのいくつかのテーマを定義しまして、そのテーマに沿ってフランク先生の扱ったテーマに沿って我々彼の考えと研究を続けるつもりでやっておりまして、亡くなられて20年間の間にどんな新しい視察ができたかということを少し絞りまして、これからの日本の研究をどうすることにするべきかということを論じながら、その学会を進めていきたいと思います。その中にとても興味のある、私にとって興味のある言葉はシビリザーション、文明ということですね。日本の文明ということは、私の講座の名前もそれにしまして、それ全くフランク先生の遺産として貴重に守りたかったのです。ですから日本の文明ということを、今文明という言葉自身の使い方に、いろいろ問題があるけれども、フランク先生の、見てた日本文化は全く彼のにとっては文明だったんですね。ですからその枠の下で日本のいろいろな文化の面を論じて どういうふうに文明に されるべきかということを多分論文集の時に総論として書き加えたいと思いますけど、今日この2日間の間にそれを討論する、十分に討論することはできないかもしれませんけど、まあ、皆さんの意見を後でいただきましてやりたいと思います。じゃあちょっとフランス語に戻りまして、Je voudrais d'abord vous lire quelques pages que j'ai écrites sur la sur ce colloque et ensuite aborder quelques problèmes concrets. Donc, chers collègues et chers amis, le 15 octobre 1996 disparaissait Bernard Franck, au terme de ce qu'il est convenu d'appeler une longue maladie, dont la lente et terrible évolution avait bouleversé tous ses proches. Ce n'est pas le lieu d'y revenir ici, ni sur la personnalité de celui qui, pour beaucoup d'entre nous, fut et reste un maître. Nombre de textes ont été déjà écrits à son sujet, il y en aura certainement d'autres. Nous rappellerons seulement que dans les années qui suivirent sa disparition, le recueil systématique par ses disciples et amis de ses études et essais dispersés en diverses revues et collections d'érudition, la belle traduction de ses travaux assurée par Madame Franck, ont donné aux recherches de ce grand savant, savant était un terme qu'il aimait lui-même employer au sujet de ceux qu'il admirait, une notoriété nouvelle, en France bien sûr, au Japon aussi, et chez un grand nombre de japonisants au-delà de ces deux pays. Il nous a pour cette raison semblé que la façon la plus féconde de commémorer les 20 ans qui se sont écoulés n'était pas de consacrer une rencontre scientifique aux travaux de Bernard Franck lui-même, encore que cela reste à faire, et sans nul doute avec profit, mais de définir quelques-uns des grands thèmes de ses recherches et d'inviter les chercheurs qui ont abordé ces questions au cours de ces années à nous présenter les aspects de leurs études qui peuvent être considérés comme la poursuite de ceux de Bernard Franck, sans qu'il y ait forcément un lien direct entre eux. Nous dirons simplement qu'il y existe une infinité de regards, et si l'on peut les qualifier de nouveaux, ces regards, ce n'est pas tant qu'ils révèlent une solution de continuité, une rupture, mais bien plutôt l'évolution des moyens de la recherche d'une part et d'une nouvelle attitude entre les disciplines de l'autre. Pour ne citer qu'un exemple de la première, il y a 20 ans, nous ne disposions pour explorer les profondeurs du canon bouddhique chinois que de l'extraordinaire entreprise du Taisho Shinshu Daizokyo Sakuin, l'index du canon bouddhique chinois publié de l'édition révisée de l'ère Taisho, qui avait nécessité la collaboration de dizaines de chercheurs japonais pendant des années. Ce fut une entreprise saluée avec enthousiasme par le grand bouddhologue belge Étienne Lamotte, qui parlait de l'instauration d'une nouvelle ère pour la recherche bouddhique. Bernard Franck, comme Étienne Lamotte, travaillait avec ses instruments. Sa disparition prématurée, alors qu'il n'avait pas pu aborder la dernière année de son enseignement au Collège de France, a fait qu'il a pratiquement tout ignoré des ressources électroniques. Depuis, pour garder l'exemple du canon bouddhique chinois, la mise en ligne de ses textes permet une précision dans la recherche impensable auparavant. Tous ceux qui ont utilisé l'index ancien, imprimé, savent à quel point il était incomplet et surtout peu flexible, toute divergence de caractère empêchant de repérer le terme cherché. À présent, il suffit de quelques frappes pour retrouver la moindre citation tronquée dans un texte japonais. Bernard Franck a travaillé avant la diffusion universelle de l'Internet, ce qui rend d'autant plus admirable la familiarité qu'il avait acquise avec les grands textes bouddhiques dans leur rapport avec la littérature japonaise, et aussi avec les grandes sommes iconographiques qu'il a explorées de façon si fructueuse. Il est donc évident que les possibilités, cette fois réellement infinies, ouvertes par l'Internet au cours de ces 20 dernières années, ont révolutionné la recherche. Jusque, pour continuer avec notre exemple, sur les conceptions mêmes du canon bouddhique chinois, qui avaient été quelque peu figées avec le grand projet du canon de l'ère Taisho, le Taisho Shinshu Daizokyo. Ce monument infrangible, grâce aux travaux poursuivis au Japon pendant ces 20 dernières années, s'avère à présent beaucoup plus mouvant et fluide dans sa structure profonde, dans la teneur même des textes qui le composent, et non seulement dans les titres extérieurs, donc bien plus fluide et mouvant que ce que l'on pensait auparavant. Le second domaine de la nouveauté du regard, nous pouvons le trouver dans l'attitude des chercheurs à l'égard de leur discipline. Bernard Franck fut en cela un précurseur. Il s'est toujours défendu d'être un spécialiste du bouddhisme japonais. Son domaine de prédilection, tel qu'il le définissait lui-même, était la littérature japonaise médiévale, et singulièrement de l'époque de Heian. En témoigne ce qu'il publia de son vivant, sous forme de livres ou dans l'éparpillement inévitable des publications savantes. On y découvre rapidement qu'il était pleinement conscient de l'importance du bouddhisme dans cette culture. Sa formation en sanskrit et en chinois classique fut mise au service de cette étude de la littérature médiévale. Il fut certainement l'un des japonisants occidentaux à en parler le plus profondément. Sa grande entreprise de collection d'imagerie religieuse, les grâce à lui célèbres Ofuda, part aussi de cet intérêt littéraire, le désir de comprendre comment les entités bouddhiques, en leur représentation, se sont diffusées au-delà des textes canoniques en une sorte d'émanation continue allant des cercles religieux au milieu lettré et au peuple en général. Les 20 ou 30 dernières années ont vu au Japon de spectaculaires changements dans la recherche universitaire. On me permettra de ne pas citer le nom d'un auteur que beaucoup tiennent pour sinologue et qui, dans un entretien publié remontant déjà à un certain nombre d'années, résumait un séjour japonais d'une année environ et l'état de la recherche sinologique qu'il y avait trouvé. Il s'en tenait à un mot. Les sinologues japonais n'étaient que des semmonka, des spécialistes perdus dans les détails, incapables ne fût-ce que d'aspirer aux vastes et hardis systèmes que lui-même élaborait. Fondée sur une belle ignorance de la langue japonaise, cette caractérisation méprisante était déjà fausse à son époque. Elle faisait fi d'une pratique fort courante, même chez les spécialistes les moins soucieux de publicité, celle d'écrire de loin en loin des ouvrages destinés à un plus grand public, ou même à leur père, dans lesquels ils se délivrent de la prudence académique pour s'adonner à des envols souvent passionnants sur l'ensemble de leur domaine. Mais l'évolution dont je parle est tout autre. Nous aurons la chance d'écouter pendant ce colloque quelques-uns des protagonistes japonais, ils sont tous présents ici et leur nom est dans le programme, n'est-ce pas ? Je ne vais pas les citer nommément, nous en reparlerons. Nous aurons la chance d'écouter pendant ce colloque quelques-uns des protagonistes japonais de ce nouveau regard qui s'est élaboré au cours des dernières décennies, dont la caractéristique majeure est d'avoir su franchir les limites entre les disciplines et aborder de front à la fois les textes littéraires, les archives historiques, les données ethnographiques, les traditions iconographiques, la littérature orale, pour donner une vision nouvelle du Moyen-Âge japonais, riche certes d'une complexité étonnante, mais qui donne aussi le sentiment d'accéder à un niveau de compréhension bien plus profond qu'autrefois. Pour ces artisans d'une nouvelle époque de la recherche au Japon, qui ont formé à leur tour une génération de chercheurs dont nous voyons à présent les œuvres paraître, Bernard Franck n'est pas un inconnu. On pourrait même dire, sans risque de se tromper, que l'intérêt désormais bien établi dans la recherche japonaise pour les Ofuda est dû dans une mesure appréciable aux travaux de ce maître. C'est donc ainsi que nous consacrons ces deux jours à la présentation des recherches qui se sont développées ces 20 dernières années sur des thèmes illustrés par Bernard Franck. Je ne peux que remercier de tout cœur ceux qui ont accepté de participer à cette rencontre, dont l'organisation a été si chaotique, pour plusieurs raisons objectives et subjectives, mais dont la responsabilité n'incombe qu'à moi-même. Heureusement, la collaboration indéfectible de ceux qui m'ont assisté et su pallier mes défaillances a permis que nous puissions nous réunir aujourd'hui. J'en suis infiniment touché et ne peux qu'adresser à tous mes remerciements. À nos collègues japonais qui ont attendu si patiemment jusqu'au dernier moment que se concrétise une invitation que je n'avais fait que mentionner oralement. À nos collègues venus des États-Unis et de Grande-Bretagne, et voire d'Italie, que le seul nom de Bernard Franck aura poussé à franchir les eaux noires des mers et océans, pour reprendre l'expression sanscrite, à nos collègues suisses et français des plus jeunes générations qui ont tenu à montrer leur attachement à l'œuvre de ce maître. Nous allons donc commencer ces deux jours et je me permets de vous donner quelques indications concrètes. Grâce à la générosité de quelques-uns de nos jeunes collègues, les communications en japonais qui seront présentées par nos quatre, voire cinq invités japonais seront résumées en français après la communication. C'est-à-dire que le principe étant que une communication dure 25 minutes environ, il y aura une dizaine de minutes de résumé en français et si nous en avons le temps, nous pourrons faire quelques échanges de questions. Nous privilégierons bien sûr peut-être les discussions, les questions avec nos collègues japonais qui sont venus de loin et pour nous parler aujourd'hui, puisque le temps, comme vous le voyez, ce colloque est très riche et le temps nous est compté. Les pauses, nous avons prévu des pauses, mais malheureusement, ce seront des pauses sèches, si j'ose dire, puisque nous avons en même temps un autre colloque qui se déroule sur les maladies rares. J'espère que nous ne serons pas considérés comme des spécimens à traiter. La logistique du Collège de France a été un peu occupée. Normalement, ces pauses se font dans la salle du sous-sol, mais ça ne sera pas possible aujourd'hui. Donc, nous pouvons nous disperser dans la cour, éventuellement courir jusqu'à un café proche. Il y en a un tout proche, mais qui est assez petit. Et pour la pause déjeuner, en revanche, nous aurons, si tout va bien, au moins une heure et demie de pause déjeuner. Elle n'est pas. Chacun est libre d'y assister. Nous essaierons peut-être de nous regrouper par affinité, mais il y a des restaurants dans les environs dont beaucoup connaissent déjà l'existence. Nous serons donc à peu près libres et pour la pause aussi de l'après-midi. Ce que je voulais vous dire en revanche, c'est pour ceux qui ne sont pas intervenants. Comme vous le savez, ce colloque se déroule en deux journées, l'une au Collège de France, l'autre à l'Institut de France, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont Bernard Franck fut l'un des membres et sans doute le premier membre japonisant. La séance du matin de l'Académie, la séance de l'après-midi est en principe libre d'accès. La séance du matin, en revanche, voit l'accès à l'Institut beaucoup plus sévèrement surveillé. Si bien qu'il faudrait que ceux qui comptent participer à assister à la journée de demain remplissent ce bulletin d'inscription que vous pourrez demander à mademoiselle Sophie Bossert, la gestionnaire de notre chaire, et lui, vous pouvez simplement mettre votre nom, vous voyez, et que vous participez, et elle le remettra ce soir, nous ferons cette annonce plusieurs fois, elle la remettra ce soir à l'Académie pour que le matin, vous ne soyez pas immédiatement arrêté et menotté dès que vous tenterez de franchir la porte de l'Institut. C'est très important, malheureusement, donc je vous prie d'y faire attention. ちょっと具体的なことなんですけれども、今日と明日の準備と準備について、ポーズと書いてありますけれども、そのポーズは全くご自由で、残念ながら同時に難病についてのシンポジウムが下に行われていますので、我々はその難病の患者の一種と見なされてもいいかもしれませんけれども、なるべく混同しないように、その普通はコーヒーなどで地下の地下の待ち合わせ室でいたしますけど、今日はできませんから、ポーズの時は、中庭などでブラブラしていただいて、近くの喫茶店まで、コーヒーを飲みにいらっしゃってもいいんですけれども、それで お昼の時間は、2時間になってますけど、多分1時間半ぐらいでしょうが、それ別に決まっていません。その場所などは共同で食事する予定がありませんですけど、皆さんはご自由でということですけど、もしよろしければ、なるべく日本から来られた先生方とご一緒にまとめて、近くのレストランでとても単純な料理で 4,5 人で、別に予約していませんけれども、大体場所がありますので、もしよろしければ、8人までは簡単に行けると思いますけど、それでその間に今日の今朝のフランス語ので行われた発表のまとめを食事しながらいたしますというのは、残念ながらフランス語からの 翻訳が準備されていませんけれども、日本から来られた方で日本語で発表していただいて、なるべく25分間の間にご発表の時間をということで、それでフランス人の私たちの同僚のおかげで、その先生方の日本語の発表をフランス語で10分ほどでまとめてもらって、それからなるべく日本の先生を中心にした質問の時間を置きたいと思いますけれども、時間的にかなり攻められていますけれども、フランス語の発表の質問あるかどうか知りませんけど、時間があったらなるべく日本語の先生を相手にしてそのディスカッションをやっていただけると思います。それで日本語でその繰り返しにいかん、だいたい日本の方その講習の中でその日本の方がいらっしゃいましたら、明日のアカデミーの時の午前中の学会の時に必ず身分証明書を見せて前もって登録してしなければならないので、この登録書は今回されているんですけど、それ簡単にお名前とお名前を書き入れて入れるだけで、あとね師匠のボッセルさんに渡しまして、今日の夜アンスティチュにアカデミーに渡すことになっています。それ明日の朝いらっしゃる方はその名前は決め登録されているから入れるんです。登録されていない方はちょっと難しくなるんですが、問題があったら私を呼んでください。それ午後の会は入場は自由ですからその問題がないですけど、明日朝の午前中の会議だけです。以上だと思います。また後でご質問があったらおっしゃってください。Voilà. Nous allons donc maintenant passer la parole à monsieur Imanishi, qui est le directeur de l'Institut national de la littérature japonaise, l'un des endroits qui a été l'une des institutions japonaises qui a depuis de longues années un accord de coopération avec le Collège de France, qui a été signé autrefois par M. Satake et le professeur Bernard Franck. Cela fait donc, je crois, au moins 30 ans, voire 40 ans que nous avons cette coopération. Et M. Imanishi a tenu, au nom de l'Institut national de la littérature japonaise, à dire quelques mots à propos de ce colloque sur Bernard Franck qui a lancé une coopération qui se poursuit et se poursuivra encore dans un cadre plus élargi dont nous pourrons peut-être parler. Nous allons Didier Davin, qui est maintenant maître de conférence à ce même institut, va traduire en français.
国文学研究資料館の今西でございます。一言ご挨拶申し上げます。ベルナル・フランク先生没後20周年を迎えて開催されますこの度のシンポジウムにご挨拶申し上げるという名誉をお与えくださいました、コレージ・ド・フランス日本学高等研究所の現所長ロベル先生並びに関係者の各位に御礼申し上げます。私の所属しております国文学研究資料館は、フランク先生が日本学高等研究所の所長であらせられた1996年に学術交流協定を締結いたしまして、それを機会に私どもの方で設置した国際研究室に最初の客員教授として藤原道長の御堂関白記フランス語全訳でご高名なフランシーヌ・エライ先生をお迎えすることから始まりました。
Je voudrais tout d'abord remercier M. Jean-Noël Robert directeur de l'Institut des études japonaises du Collège de France, de m'avoir accordé l'honneur de pouvoir parler aujourd'hui à cette occasion de la commémoration donc, de la disparition du professeur Bernard Franck. L'Institut de littérature japonaise, dont je suis le directeur, a noué en 1996 avec l'Institut d'études japonaises, qui était donc à l'époque sous la direction de M. Franck, une convention. Et c'est à l'occasion de cette convention que nous avons créé au sein de notre institut un bureau des relations internationales. Et le premier professeur invité dans ce cadre-là fut Mme Francine Herail, qui est très connue pour sa traduction en français des notes journalières de Fujiwara no Michinaga.
その後もパリ第七大学あるいはイナルコの先生方とともに共同研究を開催させていただいたり、またロベール先生には現在私どもが取り組んでおります大型プロジェクトの委員にご就任いただき、そしてこの4月からは先生のご推薦によってフランスの若き日本研究者を国文学研究資料館のテニアの教員としてお迎えすることができました。それは今私の通訳をしてくれておりますダバン氏でございます。
Et par la suite, donc, nous avons eu l'occasion d'avoir des relations avec des chercheurs issus de l'université Paris Diderot ou de l'INALCO. Monsieur Robert est membre du projet de grande envergure qui consiste à examiner donc les manuscrits japonais qui sont à l'extérieur du Japon. Et c'est aussi grâce à Monsieur Robert, à la remerciation de Monsieur Robert, que nous avons pu accueillir un nouveau chercheur en tant que chercheur titulaire, et c'est Didier Davin qui assure la traduction en ce moment. Donc moi-même.
さて、私たち日本の研究者は1989年に岩波書店から刊行されました片意味と片たがいという本によってフランク先生の業績に初めて接したわけでございます。その序文でフランク先生は片意味や片たがいという方角禁忌の問題が西欧の学者はもとより日本の研究者によってもあまり注目されていないこと、そしてそれは昔の日本の宗教生活でよくわからない一面を最も日常的な形態の中で明らかにすることができる、そういう事柄であるということを指摘していらっしゃいます。
Pour nous autres chercheurs japonais, le premier contact que nous avons eu avec les travaux de Bernard Franck a été en 1989, à l'occasion de la parution aux éditions Yonami de la traduction de l'ouvrage Kataimi et Katatagae, études sur les interdits de direction à l'époque Heian. Dans la préface de cet ouvrage, le professeur Franck dit que ce sujet n'a été étudié non seulement par personne en Occident, mais même au Japon, c'est un sujet qui n'était très peu étudié. Mais M. Bernard Franck a bien montré que c'est un sujet qui permettait de voir un aspect de la vie religieuse du Japon ancien qui était mieux connu et de le voir sous une des formes les plus quotidiennes.
フランク先生の研究のもう一つのテーマであったお札についてもそのことは当てはまると思います。
Je pense qu'on peut dire la même chose au sujet des Ofuda, qui était un autre thème de recherche de Bernard Franck.
20 年ほど前、私は「かげろう日記」と「源氏物語」の注釈を担当する機会を与えられましたが、その時悩まされた問題の一つが「片意味」と「片たがい」でした。フランク先生の著書を読みつつ、しかしながらそれを十分に理解することができなかったのは、私の頭の悪さが原因でありますが、しかし言い訳をすることが許されるならば、それは明治以後、急速な西欧化を目指して、全近代の日本を切り捨ててきた日本の近代化の悪しき結果であったとも言えます。
Il y a environ une vingtaine d'années, j'étais en charge des notes et des commentaires du Kagero Nikki et du Genji Monogatari. Et à cette occasion, j'ai rencontré beaucoup de soucis à comprendre ces notions donc de Kataimi et Katatagae. J'ai naturellement lu l'ouvrage de Bernard Franck et malgré tout, je n'arrivais pas à bien saisir. C'est naturellement à cause de ma piètre intelligence. Mais si vous me permettez de donner quand même une excuse, c'est sans doute parce qu'à partir de l'époque Meiji, le Japon a connu une occidentalisation très, très rapide. et que dans ce processus-là, tout ce qui était avant le Japon moderne a été rejeté.
フランク先生の学問は近代日本が置き去りにした問題に光を当てて日本に即した日本研究の筋道を示してくださいました。本日改めてフランク先生の学徳を忍び、このシンポジウムが実り大きいものになることを願うとともに、コレージドフランス日本学高等研究所のますますのご発展をお祈りしてご挨拶とさせていただきます。
Les travaux du professeur Franck ont mis en lumière des questions qui avaient été oubliées dans ce processus, sans doute un peu trop rapide, d'occidentalisation. Et je pense qu'il a ainsi montré la voie des études sur le Japon. Aujourd'hui, je suis encore une fois très honoré de pouvoir honorer la mémoire des travaux de Bernard Franck, et je souhaite le plus grand succès à ce symposium. Merci beaucoup.
ありがとうございました。